Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour, je suis Marie, animatrice de la Conf de l'Ain, et aujourd'hui, avec Alice Courrouble, nous allons vous parler de la relation entre les loups et l'élevage. Bonjour Alice.
Bonjour Marie.
Merci d'être là. Je te laisse te présenter et présenter ta ferme.
Donc je m'appelle Alice, je suis éleveuse de bovins bio plein air et de porcs plein air. Je valorise mes animaux en viande, 100% en vente directe. Et sur la ferme, on est deux associés, plus un en cours d'installation.
Super. Et tout ça, dans quelle commune?
Sur la commune d'Ambrenais.
Ça marche. Alors commençons par quelques informations. Les loups sont de retour en France depuis une trentaine d'années et aujourd'hui leur population est estimée à environ 1100 individus. Est-ce qu'il y a des départements davantage concernés ou des activités d'élevage plus à risque que d'autres?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le loup est arrivé naturellement par les Alpes. Donc oui, il y a des secteurs plus concernés. Le secteur alpin connaît le loup depuis 30 ans et certains départements ont de nombreuses meutes qui sont installées. Mais son existence s'étend sur tout le territoire maintenant. C'est-à-dire que le loup disperse, il se multiplie et il s'installe. Donc aujourd'hui, l'Ain est entouré de meutes. On n'en a pas sur le territoire, juste une en Pays de Gex. Mais par contre, il gagne régulièrement de nouveaux territoires. On en a même trouvé jusqu'en Seine-Maritime.
Okay.
Donc maintenant, toute la France va être concernée. Les élevages les plus touchés sont bien sûr les petits ruminants. Donc ça va être les chèvres, les brebis. Par contre, on a aussi des attaques sur des bovins. Donc finalement, tout éleveur faisant du plein air peut être impacté.
D'accord. Et comment ça se passe aujourd'hui, du coup, si un cheptel est attaqué, quelles sont les conséquences pour les éleveurs, les éleveuses et quels sont leurs droits?
Quand un cheptel est attaqué, ce qu'il faut savoir déjà, je vais vous donner le côté juridique, c'est qu'il faut tout de suite appeler la DDT, la Direction départementale des territoires. Il y a un numéro d'urgence. Et après, les services vous font ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils font venir l'OFB qui va faire un constat, puis après, vous faites une demande de prise en charge.
L'OFB, du coup, c'est l'Office français de la biodiversité.
C'est ça. Donc, les conséquences, vous pouvez avoir des animaux morts, vous pouvez avoir des animaux blessés, certains même blessés qu'il faut abattre. Vous pouvez avoir juste une baisse de productivité, c'est-à-dire des avortements, une production qui baisse parce que les animaux sont stressés. Vous pouvez avoir des agneaux qui arrêtent de grossir. Vous avez l'agriculteur qui, du coup, va entrer en période de stress, ne serait-ce que parce que ça peut recommencer. Mmh. Vous avez aussi beaucoup d'énergie à y passer parce qu'il faut, du coup, refaire des moyens de protection, surveiller la nuit, gérer les lots. Si vous avez plusieurs lots d'animaux à ce moment-là, vous les regroupez pour pas pouvoir surveiller qu'un seul endroit. Mmh. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. À savoir quand même que quand vous avez des aides, qu'il y a eu des morts, vous avez des indemnités. Mais par contre, tous les effets indirects ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que, par exemple, justement, si vous avez juste des animaux qui baissent en productivité, bah, vous n'avez aucune indemnité.
Et ça, c'est décidé, du coup, nationalement?
C'est décidé nationalement, mais il peut y avoir des différences locales par département.
Ok.
Dans l'Ain, il y a des aides pour avoir des filets de protection en urgence. C'est-à-dire que les services de la DDT en ont. Et on a aussi la chance d'avoir une association qui a aussi des moyens de protection, qui peut mettre des pièges photos pour voir ce qui se passe et voir les jours suivants s'il y a encore du loup, qui peut faire de la garde de nuit, qui peut vous aider à voir des stratégies pour défendre votre troupeau à l'instant des attaques. Donc on a plutôt de la chance et on a aussi un réseau d'alerte. Pour les éleveurs qui souhaitent en bénéficier, il suffit de s'inscrire et vous avez les informations de où il y a eu des attaques pour pouvoir vous préparer si c'est proche de chez vous.
Super. Du coup, on parlait de droits à l'instant. J'imagine qu'il y a aussi des obligations à respecter pour les élevages.
La première chose qu'il faut savoir, c'est que les départements et les communes sont zonés. C'est-à-dire que vous allez avoir des zones zéro où là, il y a une forte présence du loup, des zones 1 où il y a une forte présence mais un petit peu moins d'attaque, une zone 2 où il y a du loup et vraiment, et une zone 3 où on pense que c'est en zone d'expansion que le loup peut être présent. Okay. Et après, vous avez des communes ou des départements qui sont dans aucune zone. En fonction de ce zonage, vous pouvez avoir plus ou moins d'aides. Vous pouvez avoir des aides pour des filets de protection, des aides pour des patous, des aides pour des bergers, etc. Les aides, c'est qu'une partie des charges. Bien sûr, il y en a beaucoup qui restent à votre charge. Et ensuite, par contre, si vous voulez être indemnisé, en fonction de ces zonages, vous avez l'obligation d'avoir des moyens de protection. Mmh. Si vous n'avez pas de filet de protection et de patous, il peut être toléré une ou deux attaques de loups et vous êtes indemnisé. Mais au-delà, il faudra que vous ayez des moyens de protection pour continuer à toucher des indemnités.
Ok.
Donc à la fois c'est bien d'avoir des aides, à la fois c'est bien d'avoir un zonage, mais en même temps, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, mettre des filets de protection ça prend du temps, avoir des patous c'est compliqué, donc ça demande du travail.
Ça marche, donc les chiens de protection, les patous, donc ce sont ces chiens qui sont élevés avec le troupeau et qui le défendent contre des prédateurs. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que n'importe quelle race de chien peut être utilisée? Est-ce qu'il y a des difficultés avec les patous?
Donc les patous, en effet, non, c'est des races de chiens spécifiques qui sont vraiment été sélectionnées pour protéger le troupeau, qui ont un instinct de garde. Donc c'est des races, vous avez par exemple les bergers des Pyrénées, c'est ceux qu'on connaît le plus, ceux qu'on appelle globalement patous, mais vous avez aussi des bergers d'Anatolie et d'autres races un peu moins connues. Les chiens, il faut savoir qu'ils doivent vivre au sein du troupeau. Non, ils ne le quittent jamais. En fait, ils doivent penser que les brebis font partie de leur famille. Donc ils doivent tout le temps vivre avec. Et l'idéal en plus, ce n'est pas d'avoir un seul patou, parce que s'il doit se battre contre un loup, il peut être minoritaire. Donc il faut normalement avoir plusieurs patous pour qu'il soit plus fort qu'un loup. La règle, c'est même avoir plus de patous que de loups. Donc si les loups attaquent en meute, il faudrait encore plus de patous. Donc vous avez facilement 5-6 patous au travail en même temps sur une ferme. Ça va dépendre du nombre de brebis, de lots de brebis que vous pouvez avoir ou du nombre de lots de chèvres.
D'accord.
Du coup, faut quand même se rendre compte qu'éduquer un patou, ce n'est pas évident parce que c'est un chien, contrairement à tous les autres chiens, qui va devoir travailler seul sans son maître. Ce qui fait que du fois, ça peut être compliqué sur la cohabitation avec les autres utilisateurs des territoires. Vous allez avoir les voisins qui peuvent se plaindre qu'il y ait des aboiements ou que le patou les dérange quand il passe à proximité. Vous pouvez avoir des promeneurs ou des touristes qui ne respectent pas les règles vis-à-vis de la distance au troupeau, que le patou va leur expliquer que non, vous êtes trop proche du troupeau. Et du coup, ça peut amener plein de problématiques qui sont uniquement à la charge des éleveurs.
Oui, parce que du coup, là, tu parles des randonneurs, les patous peuvent réagir face à un prédateur
Le patou est là pour défendre son troupeau contre toute attaque extérieure. Un humain n'est pas en soi une attaque. Si l'humain respecte le troupeau, il n'y a pas de souci. Mais si l'humain s'approche du troupeau et s'en approche trop près, en fait, il y a une distance, le patou va prévenir. Il va commencer par aboyer. Il faut bien déjà dire qu'un patou qui aboie n'est pas un patou qui attaque. L'aboiement est justement une alerte. Du coup, il faut écouter ce patou, en fait. Quand vous n'êtes pas loin d'un troupeau et qu'un patou aboie, cela veut dire que vous êtes trop proche et qu'il faut repartir. Et après, il faut savoir qu'un patou, c'est un animal qui est là pour se défendre. Donc, vous ne devez pas le confronter. Vous ne devez pas être en tant qu'adversaire face à lui. Donc, par exemple, vous contournez sans le regarder. Et si possible, vous mettez, par exemple, un sac à dos à côté de vous en le tenant à la main, quelque chose pour faire une distance. Et le patou vous laissera passer.
Et j'imagine que, du coup, par exemple, un bâton pour tenir le patou à distance n'est pas du tout recommandé.
Le bâton de marche, si vous le tenez au sol sans agressivité, ça marche. Par contre, si vous commencez à brandir le bâton ou même des cailloux, bah là, vous êtes en agression, en fait. Donc, dès que vous agressez, le patou va répondre.
Ça marche. Du coup, pour faire cohabiter donc l'élevage et la population de loups, ça s'anticipe avec les moyens de protection, etc. Qu'est-ce que la Confédération Paysanne demande aujourd'hui concrètement?
C'est justement un des gros combats de la Confédération Paysanne. Pour nous, tout le territoire français va être impacté par le loup. Il faut l'anticiper. Ce n'est pas une fois que vous avez des attaques que vous allez pouvoir réagir. Les filets de protection, il faut les investir pour plusieurs années. Un patou, il faut l'avoir éduqué. Ce n'est pas un patou de 6 mois qui va défendre contre un loup adulte. Et en plus, il faut apprendre. Donc du coup, la Confédération Paysanne, c'est vraiment son combat. Alors, dans les revendications qu'on va avoir, nous avons la volonté de mettre en place un réseau d'informations pour que chacun puisse être informer des attaques qu'il peut y avoir sur le département ou sur le territoire. Donc dans l'Ain, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir cet outil, mais c'est vraiment l'Ain qui a mis ça en place via une association. C'est une initiative privée. On demande plus de moyens de protection mis à disposition en cas d'attaque, que quand vous êtes impacté, vous puissiez rapidement augmenter votre protection. On veut prendre en compte la détresse des éleveurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le stress de l'éleveur est important et il ne peut pas travailler 24 heures sur 24. On veut aussi qu'on prenne acte du fait que le loup va être partout sur le territoire et donc justement que le zonage en zone 3 soit étendu à toute la France. On veut que tout ce qui va être justement OFB, dont on parlait tout à l'heure, et loup effetterie soit beaucoup plus structuré et ait des moyens pour pouvoir agir. On veut que le chien de troupeau de protection ait un statut juridique, c'est-à-dire que quand il est justement pour que l'agriculteur ne soit pas seul face au chien de troupeau, au chien de protection et à la société, ce chien-là soit considéré différemment. On veut prendre en compte aussi les éleveurs bovins. Je vous parlais que le loup attaque d'abord les petits ruminants, mais il y a aussi eu des attaques sur les gros ruminants. Il y en a régulièrement et les éleveurs de bovins n'ont pour l'instant pas vraiment de moyens de protection possibles.
Okay.
On veut que les prélèvements de loups, il y en a tous les ans, mais que ces prélèvements soient réfléchis, qu'on ne tire pas au hasard un loup parce qu'on a dit qu'il y avait des attaques, mais qu'on voit s'il faut prélever un loup, plusieurs loups, si c'est le problème c'est la meute, etc.
Parce que du coup ça a des conséquences si on tire...
Si vous abattez n'importe quel loup, vous pouvez avoir des conséquences, notamment par exemple, vous avez donc une meute. Dans ce cas-là, vous avez un couple dominant qui se reproduit. Si vous abattez la femelle dominante qui fait les petits, ça peut déclencher des chaleurs sur toutes les femelles de la meute.
D'accord.
Et alors, vous vous retrouvez avec beaucoup, beaucoup plus de loups. Et en plus, sur une meute qui posait problème, donc les loups vont apprendre quelque chose qui pose problème à l'humain.
Mmh.
Peut-être qu'il faudrait réfléchir comment faire un prélèvement. On voudrait aussi une meilleure indemnisation des pertes indirectes. C'est-à-dire qu'avoir des avortements, avoir des animaux qui ne grossissent pas à cause du stress, c'est une perte d'activité.
Mmh.
Et pour des fermes qui sont en plein air et en vente directe, ça peut rapidement être la totalité du chiffre d'affaires.
Ouais.
Et on veut enfin justement des programmes de recherche conséquents sur les bovins, sur comment se reproduit le loup, pourquoi le loup s'étend, comment, où, dans quel territoire. Enfin bref, travailler sur le loup.
Ça marche. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un consensus du coup chez les éleveurs sur ces demandes ?
Oui et non. Certains syndicats sont plus pour le prélèvement systématique de loups et tiennent beaucoup moins en compte les conséquences indirectes liées aux petits troupeaux en réalité. Mmh. Tout ce qui va être production laitière de brebis plein air, ça va concerner des petits producteurs. Il y a beaucoup moins sur les gros troupeaux, il y a beaucoup moins de besoin d'avoir tout le temps de la production. Il peut y avoir moins besoin d'une production constante, contrairement à un petit éleveur qui va faire ses fromages quotidiennement.
Mmh.
Mais globalement, nous sommes d'accord pour dire que le loup est une problématique, que c'est compliqué, que c'est lourd à porter pour les agriculteurs et pas assez aidé ni soutenu par l'État.
Ça marche. Un mot de la fin ?
Le mot de la fin, ça pourrait dire quand même que ça ne devrait pas être aux agriculteurs de porter entièrement le poids de la présence du loup. C'est une question de société, le loup est présent sur notre territoire, d'accord, on veut de la biodiversité, d'accord, mais ça ne peut pas être à tout petit nombre d'humains qui peut tout porter et subir toutes les conséquences. Une personne seule ne peut pas et garder la nuit, et travailler le jour, et travailler 7 jours sur 7, et en plus affronter les voisins qui vont être fâchés à cause d'un chien de protection qui aura fait une bêtise,
mmh.
et en plus gérer les brebis qui se seront sauvées parce qu'un loup est passé par là, etc., etc. Vous n'imaginez même pas la charge de travail et le stress que cela peut être.
Effectivement. Merci Alice de ta présence, et merci à vous auditeurs et auditrices de Radio B pour votre écoute. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique. La Conf vous donne de nombreux rendez-vous en ce mois de novembre. Rendez-vous le jeudi 9 novembre à 20h à la MJC d'Ambérieu-en-Bugey pour une soirée de conférences-débats avec l'auteur Tanguy Martin autour de son livre « Cultiver les communs, une sortie du capitalisme par la terre ». Ensuite, le Festival des Solidarités a lieu du 17 novembre au 3 décembre et la Conf co-organise deux événements et intervient sur un troisième. Rendez-vous donc à la Salle des Remparts de Tréfort à partir de 18h le 21 novembre pour une projection de débat sur les graines et les semences, bien communs de l'humanité. Vous pouvez aussi venir échanger avec la Conf le 24 novembre à la salle des fêtes de Jasseron à 19h30 autour du film La Révolution verte, Europe, un continent bouleversé. Enfin, le 25 novembre, entre 16h et 17h30, de nouveau à la MJC d'Ambérieu-en-Bugey, il y aura une table ronde intitulée La souveraineté alimentaire, ici et là-bas. Tous ces rendez-vous sont évidemment, à retrouver sur la page Facebook de la Confédération Paysanne de l'Ain. Venez nombreux et nombreuses, on se retrouve le mois prochain. Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération Paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous.